Bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'avoir affronté le froid pour venir jusqu'ici aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité Madame Basma Khonmani, qui m'a fait jadis l'honneur de participer brièvement à mon équipe au Collège de France. C'est encore une trace archéologique parce que personne n'a enlevé sa plaque dans le couloir. C'est comme ça que des traditions, enfin des souvenirs se créent et des confusions dans les fouilles archéologiques. Madame Basma Khonmani a un parcours très spécifique puisqu'elle avait commencé à travailler sur la diaspora palestinienne, et puis elle a eu d'importantes fonctions dans le domaine de gestion de recherche. En particulier, elle a dirigé la fondation Ford au Moyen-Orient, enfin seulement pour le Moyen-Orient, pas pour l'ensemble du monde, et ensuite elle a constitué, créé, animé une institution qui s'appelle Arab Reform Initiative, qui est un consortium de centres de recherche dont l'activité centrale porte justement sur les possibilités de réforme et de démocratisation des régions arabes. Elle a eu aussi d'autres projets, mais celui-là a été, oui, le plus important. En dehors de cela, Madame Khonmani est d'origine syrienne. Elle n'est venue en France que parce que son père a été un exilé politique victime des persécutions régime. Et elle a fait partie de l'équipe des négociations à Genève sur l'avenir de la Syrie, évidemment du côté de l'opposition, pas du régime. Alors, sa conférence d'aujourd'hui va porter sur la situation en Syrie. Alors, la Syrie, évidemment, c'est un terrible drame. Je voudrais bien reprendre éventuellement l'expression de l'historien Timothy Snyder, qui parle de Bloodland, de terre de sang. Et un autre historien, Mark Levin, parle des régions de marge, mais c'est à peu près la même idée, c'est-à-dire des régions qui sont à la périphérie de l'Europe et qui, pour des raisons complexes, ont vu se succéder violences, massacres, génocides, etc. Et évidemment, les Bloodlands, c'était l'Ukraine, enfin de la Baltique à la mer Noire, l'Anatolie durant la Première Guerre mondiale, et en un sens, aujourd'hui, les terres de sang sont l'Irak et la Syrie. Mais là, on est là plutôt de l'ordre de la constatation que de l'analyse. Donc, ma chère Basma, je te laisse à l'analyse.
Merci beaucoup. Merci au professeur Henri Laurence pour cette invitation. C'est un honneur de parler dans le cours de Henri Laurence. Et ce qu'il vient de rappeler concernant l'histoire de la Syrie, je crois, vous indique combien c'est un lieu de civilisation, mais aussi un lieu de pluralité, surtout, ethnique, religieuse, culturelle, historiquement un pays qui aujourd'hui appartient à la sphère du monde dit arabo-musulman. Et pourtant, c'est la diversité que l'on trouve en Syrie est assez particulière et mérite sans doute, lorsque le pays s'effondre, comme il est entré dans un processus d'effondrement depuis maintenant près de 8 ans, comment on recompose un pays qui a eu qui a cette caractéristique si plurielle. Est-ce qu'on la rattache à nouveau et on lui redonne une identité semblable à celle des voisins, ou non pas une identité, mais une composition politique, un contrat social fondé sur cette appartenance régionale arabo-musulmane, ou bien faut-il penser une autre formule pour ce pays dans une région qui n'accepte pas toujours la variété, la diversité, la pluralité? Voilà un enjeu majeur. Ce que je voudrais dire avec le temps que m'accorde Henri Laurence, c'est faire un récit qui, j'espère, fera sens pour vous, car je pense que la question syrienne est devenue si complexe que pour l'observateur même averti, il est très difficile de comprendre tous les enjeux et de savoir ce qui s'est produit en 8 ans. Sommes-nous encore dans la même caractéristique du conflit qu'au premier jour? Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelle a été l'évolution de ce conflit? Quelle est aujourd'hui, quels sont les acteurs importants qui jouent un rôle dans la dans le façonnement de la réalité syrienne d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un processus politique? Est-ce qu'il y en a un? Peut-on parler d'un processus de paix, d'un processus de négociation? Je vous en dirai 2 mots à la fois en tant qu'analyste, mais aussi en tant que participante de ce processus. Et puis peut-être regarder un peu plus à long terme, qu'en est-il de ce qui se dessine actuellement comme perspective de long terme? Et le mot perspective est un mot qui suggère un horizon clair, mais l'horizon n'est pas clair. En revanche, on peut peut-être, à partir des réalités sur le terrain, prévoir ce que seront les mois, les années, et en tout cas quels sont les processus que l'on peut mesurer, que l'on peut prévoir, que l'on peut peut-être influencer par opposition à ceux qui resteront imprévisibles et auxquels il faudra s'adapter s'il y a des changements imprévus. Alors voilà comment je vais dérouler cette intervention. En espérant que j'apporterai une certaine clarté et une lecture qui vous amènera à imaginer que ce pays peut trouver une solution. Car lorsque on est observateur d'un sujet, lorsqu'on est attaché à un sujet à la fois par intellectuellement et dans mon cas intellectuellement, mais aussi sentimentalement, l'analyse va toujours dans le sens de comment s'en sortir. Et je pense que ce prisme de comment s'en sortir influence beaucoup l'analyse elle-même. Autrement dit, nous cherchons toujours le fil qu'il faut essayer d'attraper dans ce magma si difficile, dans ce bourbier, où peut-on trouver les éléments positifs et à partir de quoi peut-on partir pour reconstruire? Alors, je vais commencer par une présentation rapide de l'évolution du conflit. Vous avez vous-même vu la couverture médiatique massive auquel le conflit a eu droit dans les premières années, les deux premières années, puis une couverture plus sporadique qui rend encore plus difficile la compréhension. Donc, chacun, je crois, se souvient des soulèvements dans les différents pays arabes. Le soulèvement arrive en Syrie, il a les mêmes caractéristiques que dans les autres pays du monde arabe. Il intervient en mars 2011. Autrement dit, nous avons déjà eu le renversement, le départ pacifique, donc non pas un renversement, mais le départ pacifique à la suite d'un soulèvement en Tunisie en janvier 2011, puis en Égypte, et nous en sommes au troisième pays, non pas le troisième pays, parce qu'entre-temps, d'autres pays se sont soulevés également, on signalera le Yémen en particulier, et on sait que ce schéma est en train de s'étendre à la région. Et ce qui se produit en Syrie vient de tout naturellement, j'oublie la Libye, bien entendu, la plus violente. La Libye influencera énormément le comportement des Syriens et le comportement des acteurs extérieurs aussi. Ce mouvement pacifique a trois slogans. Le premier, c'est la revendication de liberté. La liberté voulant dire ici l'arrêt de l'état policier et de la répression extrême. La deuxième revendication, et elle est tout aussi importante, elle est contre la corruption, car nous avons en Syrie un état de prédation qui règne, un pouvoir politique qui est lié à la fois par des liens de famille, des liens confessionnels, des liens, mais surtout des liens d'intérêt, à tout un réseau qui capte entièrement les ressources du pays. Les proportions sont absolument effarantes. Ce qui est transféré à l'étranger est inimaginable, et la population ne peut pas respirer sans être obligée de participer à cette corruption. Donc, ces deux revendications qui se résument dans le mot dignité, il faut toujours trouver la composante anticorruption, la protestation contre la corruption, qui, quand elle atteint de telles proportions, est perçue comme une offense profonde à l'esprit, au citoyen, à sa dignité mentale. Autrement dit, comment peut-on être resté témoin d'un tel niveau de corruption ? Le troisième message, qui est évidemment très important, c'est celui de l'unité du peuple syrien. C'est-à-dire que ces premiers slogans, les premiers slogans dans les manifestations, vont être... Le peuple syrien est un, il est uni. Les manifestants savaient déjà que c'était là un point de faiblesse que pouvait exploiter le régime. Et donc, les premiers messages étaient « Nous ne nous soulevons pas contre un pouvoir confessionnel, car le pouvoir est confessionnel, l'armée, les services de sécurité, la réalité du pouvoir, l'appareil répressif qui permet au régime de contrôler le pays est essentiellement composé de dirigeants et dirigé par des éléments de la communauté alaouite, celle du président Assad. Et donc le soulèvement veut immédiatement rassurer sur le fait qu'il n'est pas dirigé contre une communauté, contre la communauté alaouite, mais bien contre un pouvoir dictatorial et corrompu. Je pense que c'est important de repartir de ces revendications pour savoir, lorsqu'on veut aboutir ensuite à une négociation, un compromis, une solution, une sortie de conflit, qu'est-ce qu'il faut, où faut-il mettre l'accent ? À quoi faut-il faire attention ? Donc, comme vous le savez, l'histoire de ce conflit est bien triste, puisque très rapidement, le pouvoir riposte de manière très violente aux premières manifestations pacifiques et enclenche un engrenage de violence. Le souhaite apparemment, puisque c'est là qu'il a la supériorité évidente. Il a une machine militaire et répressive particulièrement efficace. Et en revanche, la réponse à des manifestations pacifiques est beaucoup plus difficile pour lui, puisque toute répression de manifestations est répercutée mondialement par tous les médias, par les dirigeants politiques à l'étranger. Donc l'image du régime est très rapidement atteinte, et c'est ceci que le régime dont le régime souffre le plus. Les autres dirigeants avant lui ont été dénoncés comme devant partir, étant des dictateurs sans avenir, et ils sont partis d'une manière ou d'une autre. Le voilà mis en question lui-même. Donc la riposte militaire était une riposte qui était naturelle à ce régime, puisque ce sont les moyens qu'il sait utiliser. Et sa deuxième stratégie, c'est celle de diviser les communautés, de sorte que il n'y ait pas, de sorte de briser, de manière à briser l'unité de ce mouvement qui est un mouvement de revendication non idéologique par définition. La liberté, la dignité, l'anticorruption, ce sont des revendications qui n'ont pas de caractère idéologique. Il cherche donc à diviser pour que d'une part, pour que le mouvement soit brisé, d'autre part, et c'est très important, d'autre part, pour mobiliser sa propre communauté des régions entières pour défendre le régime et donner à l'armée et aux services de sécurité des moyens humains de combattre le mouvement. Dans un premier temps, ceci est facile, petit à petit, et malheureusement assez rapidement, à partir de la fin de l'année 2011, le mouvement de protestation se militarise lui aussi. Donc nous entrons dans un conflit militaire entre le régime et son appareil, sa communauté à ses côtés autant que possible. Elle n'a pas le choix, elle est un peu prise en otage pour défendre le régime. Et le discours, et c'est là où la propagande joue un rôle majeur, le discours est « c'est une révolte des musulmans sunnites, elle est à caractère religieux islamiste ». Et il faut donc défendre la communauté alaouite. La voilà menacée, ce qui permet donc de recruter pour défendre le régime. Et le régime est le défenseur par excellence de la laïcité du pays. Et comme vous le savez, ce récit va gagner en crédibilité parce qu'il est nourri de l'autre côté. Et il faut reconnaître qu'à partir effectivement de la fin de l'année 2011, les pacifistes non idéologiques n'ont pas vu venir une arrivée d'armes et d'organisations militaires, de groupes armés, pour commencer à combattre le régime militairement. Donc il y a encouragement des deux côtés, si vous voulez, pour aller vers la confrontation militaire et la violence, l'escalade dans la violence qui atteint des proportions extrêmes. Toute la communauté internationale, la Croix-Rouge, les Nations Unies, les organisations des droits de l'homme témoignent toujours d'une violence extrême. Les journalistes, il y a beaucoup de films qui ont été faits, de plus en plus de films qui sortent maintenant sur la Syrie pour décrire une situation d'une violence presque inédite dans les conflits de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Alors, devant cette terrible... les manifestations pacifiques continuent pendant encore une partie de l'année 2012 et continue encore malgré tout. Et là, on a des manifestants héroïques prêts à mourir pour manifester pacifiquement, mais ça devient un peu une belle romance que de voir des gens se présenter les mains nues devant les canons du régime. À côté de cela, il y a des groupes armés qui, dans un premier temps, protègent les manifestants, dans un deuxième temps, vont passer à l'affrontement militaire direct avec le pouvoir. Et devant cette répression, devant la militarisation, l'opposition politique qui commence à s'organiser, l'opposition politique syrienne qui est à la fois sur le terrain mais surtout à l'étranger, parce que sur le terrain elle est réprimée, et les gens sont arrêtés, celle qui est à l'extérieur commence, et même à l'intérieur, la population elle-même, réclame la protection des civils. La protection des civils, c'est parce que, quelques mois plus tôt, les Libyens ont fait appel à la communauté internationale, ont appelé à la protection des civils, et l'on a invoqué cette nouvelle norme, pas si nouvelle, mais nouvelle norme adoptée par les Nations Unies depuis 2005, celle du devoir de protéger les civils. La responsabilité de protéger. C'est une norme qui a été effectivement adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un nouveau principe qui, en réalité, conduit tout naturellement à l'intervention. Alors, comme le cas libyen s'est produit en invoquant cette norme, ce principe, les Syriens la réclament pour eux aussi. Je n'entrerai pas dans la polémique qui accompagne l'application de cette norme, sinon pour dire qu'en Libye, elle s'est transformée, elle est passée de la protection des civils à l'objectif de changement de régime. Et je le dis parce que c'est une composante essentielle dans le comportement de tous les acteurs vis-à-vis de la Syrie. Ce basculement de « on protège les civils contre l'aviation de Muammar Kadhafi » à « il n'est plus possible de continuer autrement que d'aller jusqu'à Tripoli pour renverser le pouvoir de Kadhafi », ce basculement est vécu par notamment la Russie et la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité, comme une perversion du principe et une réaction très forte de « plus jamais nous ne tolérerons le renversement des régimes ». La notion de changement de régime, c'est terminé, nous nous y opposerons quoi qu'il arrive. Et cette conduite, ce comportement, cette décision joue un rôle essentiel dans le comportement et la stratégie russe par la suite vis-à-vis de la Syrie. Voilà pourquoi il était important de mentionner la question de la Libye, parce qu'elle influence directement, effectivement, la situation syrienne. Quel est le résultat de la non-intervention en Syrie ? Il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention américaine. Il est très important de comprendre qui est au pouvoir à Washington à ce moment-là. C'est le président Obama. Il a accepté une intervention en Libye à la demande et sous la pression des pays européens, de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne et de la France en particulier, pour dire la Libye, ça nous concerne et nous voulons une intervention. Et les États-Unis y sont allés avec une certaine réticence, mais ils y sont allés, ils ont participé pleinement au changement de régime en Libye. Or, vis-à-vis de la Syrie, le président Obama lui aussi dit « je n'interviendrai pas en Syrie ». Quoi qu'il arrive. Donc voilà où en sont où va se nouer, si vous voulez, ce consensus ou ces positions qui se répondent les unes aux autres au niveau international et qui vont constituer un verrou majeur sur la situation syrienne. J'y reviens dans un instant, mais pour dire que le fait qu'il n'y ait pas eu d'intervention conduit à une augmentation des armes qui sont acheminées vers l'opposition en Syrie, les groupes d'opposition armés. Ces groupes vont eux-mêmes, devant la violence, se radicaliser. Ils vont être rattrapés ou ils vont être gagnés, si vous voulez, par l'infiltration de beaucoup de combattants qui viennent d'autres pays, qui, eux, sont idéologiques, qui sont radicalisés, qui sont des djihadistes, qui viennent de toutes les parties du monde, du Maghreb à l'Arabie Saoudite, des pays du Golfe, et qui entrent en Syrie pour combattre et pour former des groupes armés à l'intérieur de la Syrie. Donc le caractère de révolte populaire, de soulèvement non idéologique du début, commence à perdre ses caractéristiques. Et il commence à basculer en laissant en minorité les groupes qui sont non idéologiques. Le mouvement pacifiste n'arrive plus à se faire entendre, il n'a plus d'espace pour manifester pacifiquement, ni s'exprimer, donc on ne l'entend presque plus. Les groupes armés, les premiers qui étaient venus en défense des civils et qui n'étaient pas idéologiques, ceux-là ne reçoivent pas de soutien militaire extérieur important, donc ils restent faibles. En revanche, les mouvements idéologiques de toute la région entrent en Syrie et vont organiser des groupes. Et comme vous le savez aujourd'hui, il y a eu des mouvements djihadistes en Syrie. Il y en a encore. Et le plus violent d'entre eux est arrivé d'Irak, en réalité, puisque en Irak se déroulait une crise non moins violente et radicale. Daesh était apparu dans sa première forme en Irak. Il commence à apparaître en Syrie en 2013, et c'est à la faveur des grandes victoires de Daesh en Irak que Daesh prend des forces, des armes et de l'argent, la capture de dépôts d'armes majeurs en Irak et de réserves bancaires dans les banques que capture Daesh, pour déferler sur la Syrie ensuite avec des moyens considérables. Donc voilà ce que devient ce pauvre soulèvement populaire. Le pays est envahi par des groupes qui se réclament du djihadisme et de l'islamisme le plus radical, qui appellent non plus tellement à combattre le régime, bien sûr, c'est leur slogan, combattre le régime. En réalité, ils combattent aussi les groupes non idéologiques, ceux qui veulent garder le mouvement laïque et non idéologique, et ils menacent autant ces groupes-là qu'ils combattent le régime. Voilà pourquoi, je pense, nous avons eu, avec cela, l'utilisation par le régime de cette évolution pour dénoncer une agression terroriste, djihadiste, contre un régime laïque. Et c'est devenu le récit que le régime va répandre sous toutes les formes, dans tous les pays, avec beaucoup d'efficacité. Un message qui résonne, et le régime est assez doué pour comprendre quels sont les arguments qui vont toucher les opinions publiques occidentales. Il s'agissait de discréditer définitivement ce mouvement, de noyer les revendications initiales du soulèvement et de dénoncer donc une agression et une menace djihadiste terroriste sur la Syrie que lui, régime laïque, combat et se pose en défenseur et en protecteur de la laïcité. Ce discours, chez le commun des mortels, passe. Il passe, il est entendu. Il n'est pas seulement entendu par le commun des mortels, il est entendu aussi par pas mal de services d'administration, de gouvernement. C'est un discours auquel on est sensible. Alors, on est sensible aussi parce que la menace djihadiste est réelle. Mais cette menace djihadiste, elle est déclenchée par un régime ultra-répressif et dictatorial. D'où un discours qui devient inaudible de la part de cette opposition non idéologique pour dire mais nous sommes partis d'un mouvement non idéologique, c'est un régime horriblement répressif et corrompu. Il a favorisé par sa riposte l'entrée de tous ces groupes sur le territoire syrien. La réponse n'est pas de dire que c'est lui qui peut les combattre. Il est, au contraire, la raison pour laquelle ils se sont épanouis, développés et ont proliféré en Syrie. Voilà pourquoi, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui, c'est la réalité de la situation d'aujourd'hui, le régime se pose en protecteur des minorités, de la laïcité en Syrie et du retour de la stabilité, tandis que de l'autre côté, nous avons encore certains groupes terroristes. Et on ne parle plus de ceux qui, dans l'opposition, combattent ces mêmes terroristes. Nous avons maintenant une guerre à l'intérieur même du camp censé être de l'opposition, parce que les islamistes djihadistes n'ont pas grand-chose à faire que Assad reste au pouvoir ou ne reste pas au pouvoir. Ils sont là pour créer des territoires sous leur contrôle, qu'ils soumettent à leurs lois, à leurs cours islamiques et à un contrôle de la population qui n'a rien à envier au contrôle qu'exerçait Assad sur ces régions avant qu'il ne perde le contrôle. Donc nous avons pratiquement trois acteurs majeurs, le régime, un mouvement anti-Assad et puis un courant islamiste djihadiste qui s'est installé dans le pays et qui combat en réalité les deux. Et pour s'acheter une légitimité, il combat le régime dans une région, sur un front, et puis par ailleurs, il cherche à contrôler l'économie, la société, la culture, le droit dans toutes les régions dont il s'empare. Où cela a-t-il mené ? À des interventions extérieures de pays de la région et internationaux. Ces interventions, elles vont jouer un rôle si important que, en réalité, les Syriens vont perdre le contrôle de la situation définitivement, totalement. Aujourd'hui, pas ni l'opposition, ni d'ailleurs le régime ne sont des acteurs capables en mesure de prendre une décision et de la mettre en œuvre. Autrement dit, toutes les parties sur le terrain, peut-être que l'acteur djihadiste est le plus autonome, parce qu'il a ses sources de financement et il a su comment s'organiser pour capturer des ressources. Mais les acteurs syriens, qu'ils soient du régime ou de l'opposition, sont contrôlés par les stratégies des puissances extérieures, régionales ou internationales. Du côté du régime d'Assad, il y a eu deux interventions décisives. La première se produit en 2013. Elle devient apparente en 2013 et directe sur le terrain. C'est celle de l'Iran, par le biais du Hezbollah, libanais dans un premier temps, qui va organiser et structurer des milices pour protéger le régime, qui vont combattre l'opposition partout dans différentes régions, qui participent à des combats d'une extrême violence, comme je le disais. Cette intervention va rectifier le rapport de force en faveur du régime, car du côté de l'opposition, les groupes de l'opposition avaient gagné du terrain militairement et le régime se sentait menacé dans des régions vitales. Il va donc avoir ce soutien de l'Iran, qui petit à petit augmente le nombre de combattants venus de l'étranger, venus d'Irak, mais aussi d'Afghanistan, le Hezbollah du Liban, d'Iran. Et directement, les gardiens de la révolution iranienne, cette énorme deuxième armée en Iran, qui est le bras armé de l'expansion de l'influence iranienne à travers la région, qui avait déjà agi au Liban, agi en Irak, la voilà maintenant qui agit directement en Syrie. Et le nombre de ces combattants va augmenter jusqu'à atteindre, aujourd'hui, on évalue leur nombre à 80 à 100 000 miliciens venus de l'extérieur, ayant quelques éléments syriens, mais essentiellement des combattants étrangers à caractère confessionnel, puisqu'ils sont tous de la confession chiite, celle de l'Iran. Donc, nous avons cet acteur iranien qui est majeur, mais cet acteur iranien, malgré cette intervention directe sur le terrain, en fournissant des forces terrestres pour combattre, se trouve en difficulté en 2015 et va faire appel à la Russie pour dire « le régime est menacé, nous ne pouvons plus, à partir de nos forces terrestres, le protéger, il faut une protection aérienne ». La deuxième intervention, donc, après celle de l'Iran, c'est l'intervention russe par une campagne aérienne massive à partir de septembre 2015 qui va réellement, littéralement, sauver le régime à quelques semaines de sa chute. Et ce sont les propos du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui dit au moment de l'intervention, le régime était à 2 ou 3 semaines de sa chute. Donc nous l'avons sauvé. Alors bien entendu, ce message est à l'intention du régime pour dire vous nous devez votre survie, donc à l'avenir il faudra nous écouter, mais nous y viendrons dans un instant. Voilà donc du côté du régime ce qui se produit, ces deux acteurs majeurs qui vont sauver le régime. Mais ces acteurs ont aujourd'hui leur mot à dire sur le terrain. Et ils ont chacun une stratégie très différente l'une de l'autre. Celle de l'Iran est une stratégie de prosélytisme et d'installation militaire sur le territoire syrien. Le développement de cette présence est devenu très visible au cours des 3 derniers mois. C'est donc récent, mais on observe sur le terrain une expansion très rapide, non seulement d'une présence militaire, mais aussi l'ouverture d'universités, de cercles religieux, d'endoctrinement, le paiement de salaires à des anciens combattants de l'opposition, parce qu'ils sont affamés, ceux-là, ils n'ont plus les moyens de vivre ni de se nourrir, en payant des salaires pour leur conversion au chiisme, etc. Des bourses d'études en Iran, enfin, tout un travail en profondeur de la société syrienne dans toutes les régions, y compris aussi le moyen économique qui est le rachat de terres. Quand on dit le rachat, c'est souvent la confiscation de propriétés et le paiement de ce que veut bien payer la milice en question à l'ancien propriétaire. Et donc nous avons une expansion terrestre iranienne qui est parallèle aux institutions de l'État, lesquelles sont en déliquescence, comme on peut imaginer. Et cette expansion, on la compare aujourd'hui à ce qui s'est produit au Liban. Autrement dit, non pas tellement un État dans l'État, comme on dit du Hezbollah au Liban, mais plutôt un État parallèle et une installation avec des tentacules à travers l'ensemble du territoire syrien, l'État étant tellement faible qu'il pourra être noyauté, son armée, ses services, ses institutions pourront tomber sous l'influence et le contrôle décisif de l'Iran. C'est la stratégie que l'on observe actuellement sur le terrain et qui est très alarmante, à vrai dire, parce qu'elle tend à transformer le tissu social syrien. Il faut rappeler qu'à la différence du Liban ou de l'Irak, la Syrie a une communauté chiite qui doit représenter 2% de la population, donc pas vraiment une communauté chiite sur laquelle l'Iran peut s'appuyer. Il y a donc une offensive extrêmement agressive actuellement et intensive de pénétration de la société syrienne et de prosélytisme. La Russie a une toute autre approche. Elle cherche à rétablir les institutions de l'État. Elle mise sur l'armée, la recomposition des unités de l'armée, bien entendu en préservant au pouvoir les gens qui sont, qui contrôlent l'armée, en préservant pour l'instant un commandement qui reste proche du régime d'Assad, un commandement où les représentants de la communauté alaouite restent très importants, mais pas exclusivement. Mais donc les Russes cherchent à recrédibiliser, redonner de la crédibilité à une armée nationale syrienne. Leur travail est plutôt au niveau des institutions de l'État. Donc deux stratégies qui sont assez différentes l'une de l'autre. Le résultat, c'est tout de même la disparition de l'acteur régime dans sa capacité à agir ou à influencer la situation politique. Une dépendance totale sur le plan militaire, puisque le contrôle des différentes régions tombe effectivement sous le contrôle du régime, mais si on enlevait les milices iraniennes et les milices chiites, ils ne survivraient probablement pas très longtemps. Donc ceci est reflété dans la marge de manœuvre du régime. Du côté de l'opposition, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu l'entrée de nombreux groupes avec beaucoup d'armes et beaucoup de moyens financiers qui ont été favorisés, non pas tellement par les gouvernements des pays du Golfe, mais plutôt, peut-être certains gouvernements plus que d'autres, je ne les nommerai pas, mais beaucoup de réseaux occultes qui sont transnationaux, si vous voulez, de grandes richesses dans ces pays-là, d'hommes d'affaires, d'individus qui financent ces groupes, et moins les gouvernements eux-mêmes. Mais les gouvernements ferment l'œil. Donc, par laisser-faire ou par stratégie, ces groupes vont recevoir et l'opposition reçoit beaucoup d'argent de l'extérieur, non pas les groupes, comme je le disais, non idéologiques et laïques, mais plutôt ces groupes-là. L'acteur majeur qui va rester un acteur majeur jusqu'à ce jour, c'est la Turquie. La Turquie joue un rôle majeur en Syrie, seulement sa stratégie, elle est régionale. La Turquie est intéressée par le nord de la Syrie, elle a un souci majeur, c'est d'empêcher l'émergence en Syrie d'un territoire géographique continu contrôlé par la communauté kurde en Syrie. Et ceci est son objectif majeur, en réalité le seul. Toutes les actions de la Turquie s'expliquent par ce souci d'empêcher que les Kurdes de Syrie parviennent à faire en Syrie ce qu'ils ont fait, ce que les Kurdes d'Irak ont pu faire en Irak, c'est-à-dire un territoire contrôlant des ressources situé à la frontière de la Turquie et que la Turquie verrait comme une menace vitale pour ses intérêts. Donc la Turquie va garder tout le long une stratégie purement régionale. Elle ne va pas s'occuper ni de Damas, ni de la région du Sud, ni des autres régions. Elle reste dans cette zone nord. Et aujourd'hui, au nom du combat contre les mouvements terroristes, djihadistes, la Turquie est présente en territoire syrien, elle a même développé sa présence et elle contrôle une zone où se trouvent encore des djihadistes et le monde entier attend que cette zone soit nettoyée de ces djihadistes. On ne sait pas encore comment la Turquie va s'y prendre. Donc la Turquie a sanctuarisé une partie du nord de la Syrie et il reste le territoire que contrôlait Daesh. Daesh a étendu son contrôle sur une grande partie du nord-est de la Syrie et les États-Unis, une coalition internationale menée par les États-Unis, a combattu Daesh, comme vous le savez. La France a pris une part active à ces combats et arrive à peu près à vaincre Daesh, pas encore définitivement, mais ceci est en bonne voie. Quelles sont les forces terrestres qui accompagne cette campagne aérienne de la coalition internationale contre Daesh, c'est une armée pratiquement dirigée par les Kurdes de Syrie, le mouvement qu'on appelle le PYD, qui est le Parti démocratique unifié. C'est un nom, il a un nom arabe et un nom kurde, mais on l'appelle le PYD. Alors ce parti a réussi à créer une force réellement homogène et efficace pour combattre Daesh. Daesh parti, qui reste sur ce territoire? Il reste un contrôle principalement kurde, même si les Arabes, la population arabe prend un rôle important dans l'administration civile. Sur le plan sécuritaire et militaire, c'est une force commandée par des Kurdes, avec évidemment une protection américaine directe et un armement américain très très important à cette force militaire. Donc voilà le territoire syrien, c'est un patchwork de différentes zones d'influence aujourd'hui. La Russie n'a pas une zone territorialement définie, elle est présente comme je l'ai dit tout à l'heure. L'Iran n'approche pas du nord pour ne pas gêner la Turquie, et la Turquie ne conteste pas pour l'instant la présence iranienne en Syrie. Il y a donc un peu un partage des rôles entre ces deux grands acteurs, la Turquie et l'Iran. Il reste les pays du Golfe, que font-ils? Eh bien, ils sont en retrait. Aujourd'hui, ils se rendent compte que la Syrie est moins importante pour eux et moins inquiétante que ne l'est le Yémen à leurs frontières. Et donc, ils se sont désengagés discrètement. Ils sont encore là, ils ont un discours politique, mais la réalité est qu'ils ne participent plus du tout, ils ne sont plus présents en termes d'alimenter le conflit, que ce soit en armes ou en soutien d'une autre nature. Voilà à peu près la situation des acteurs régionaux et internationaux. Que font les États-Unis? Ils sont présents, militairement avec une petite force, et cette force, elle a servi à combattre Daesh, à organiser les forces kurdes pour combattre Daesh, mais elle s'est donnée aujourd'hui pour objectif majeur, et je le signale parce que je pense que dans la période qui vient, ce sera un élément à surveiller dans l'évolution de la situation. Les Américains sont là, désormais, avec une priorité absolue, c'est combattre les milices iraniennes et la présence et l'influence iranienne en Syrie. Pourquoi? Parce que nous avons un voisin très silencieux, très discret, mais non moins décisif, c'est Israël. Et Israël s'est tellement inquiété de l'expansion de cette présence iranienne en Syrie qu'aujourd'hui, c'est Israël essentiellement qui insiste auprès des États-Unis pour dire « il faut rester en Syrie, il faut combattre les Iraniens ». Il ne faut partir que lorsque vous aurez réussi à faire partir présence militaire iranienne qui, pour nous, est une menace stratégique. Nous ne pouvons pas l'accepter. Alors, vous voyez où en sont les Syriens dans tout cela. Les Syriens, eh bien, ils vont à Genève pour essayer de négocier une solution politique. Voilà maintenant plus de 4 ans, presque 5. En 2014, il y a eu une première tentative, puis en 2015-2016, et puis depuis début 2016 jusqu'à fin 2018, voilà 3 ans maintenant, qu'il y a des soi-disant pourparlers à Genève. La réalité est qu'il n'y a jamais de négociation entre deux parties. Il y a une délégation de l'opposition qui s'est composée, mais en revanche, nous avons en face une délégation du pouvoir qui représente le régime d'Assad et qui refuse de négocier. Et ce refus fait qu'il n'y a pas de négociation. On a toutes les apparences d'une négociation, un envoyé spécial, une équipe, des lieux, le Palais des Nations, etc., à Genève. Pas de négociation. Tout s'est réglé jusque-là par la logique de la force. Celui qui tient du terrain obtient ce qu'il veut des autres acteurs plus faibles. Et nous en sommes là sur le plan politique. Ce processus politique n'a toujours pas démarré. Il est vrai que le choix de la force a réussi au régime d'Assad, puisqu'il a été appuyé par l'Iran et la Russie. Devant une telle force, l'autre côté est forcément se rend, et c'est ce qui s'est produit territoire par territoire, morceau par morceau, les zones qui étaient sous le contrôle de l'opposition, que le régime avait assiégées, affamées. Vous avez tous suivi dans les médias les situations terribles d'enclaves qui étaient assiégées. Ces enclaves ont été les unes après les autres, se sont rendues, ont négocié la sécurité de ceux qui restaient après des bombardements massifs et l'évacuation souvent de populations de ces régions et un développement inquiétant qui est celui du remplacement de ces populations par des populations qui sont non syriennes ou à majorité chiite, à majorité alaouite, enfin un changement démographique qui inquiète le monde entier aujourd'hui. Il y a là aussi beaucoup d'éléments pour l'indiquer et qui pourraient effectivement semer les germes d'un conflit de plusieurs décennies. Quand on sait que les déplacements de population se produisent, la mémoire des populations est marquée et en général il est très difficile de parvenir à pacifier la situation. Alors je pense que ce qu'il est important de signaler aujourd'hui, c'est que recherche-t-on, que faut-il qu'il advienne en Syrie pour que le pays reste un seul pays, car la menace d'une partition de fait ou de iure est réellement posée aujourd'hui. On peut rester pendant 10 ans avec une zone d'influence turque, une autre américaine, une troisième iranienne, etc. Mais les données pour une solution doivent être cherchées et doivent être cultivées par certains acteurs, et nous espérons que ces acteurs existent. Alors, ces acteurs, ce ne sont, je pense, ni l'Iran, ni la Turquie. Peut-être peut-on compter sur la raison ou un comportement raisonnable de la part de la Russie, laquelle n'a pas pour souci l'intégrité, l'unité ou la souveraineté de la Syrie, mais plutôt une présence stratégique. Mais cette présence stratégique est plus ou moins acceptée, à la fois par les autres puissances, par les Syriens eux-mêmes qui se disent que c'est un moindre mal que d'avoir des bases militaires russes qui sont sur le territoire syrien, pourvu que l'on puisse recomposer l'État et repartir sur un nouveau contrat social. Car sans contrat social nouveau, il n'y aura pas de Syrie. Sans réconciliation nationale, il n'y aura pas de Syrie. Or, ceci conduit tout de même aujourd'hui à un constat que l'on ne peut pas exprimer, que les diplomates ne peuvent pas exprimer. Moi, je peux l'exprimer, mais les diplomates ne le diront pas. Le maintien d'Assad au pouvoir implique que le pays reste partagé, car son pouvoir est fondé justement sur la division, la loyauté de sa communauté qui craint les autres, et donc le maintien par la force. Or, si l'on veut sortir de cette logique de force et réconcilier les Syriens, il faut le faire à l'écart d'Assad. Et je le dis parce que les négociations ou les dialogues qui se produisent de manière secrète, très discrète, à l'écart du pouvoir et à son insu. Car toute réconciliation représente une menace pour le régime. S'il y a des liens entre les communautés qui se retissent, eh bien, le pouvoir va se sentir à nouveau menacé. Et dans ces dialogues, il est essentiel de savoir quelles sont les composantes d'une réconciliation. Une des composantes importantes qui est de nature politique, il y en a qui sont bien entendu historiques, et là c'est la référence, l'historien qu'est Henri Laurence vous a sans doute souvent parlé bien plus en profondeur et de manière plus éloquente que moi de ce que sont les origines de la construction de la Syrie et de la révolte arabe contre la tentative française à l'époque du mandat de partager le pays en 4 États. Or, cette révolte nationale reste dans les esprits comme une référence majeure, suprême. Nous sommes révoltés un jour, tous ensemble, toute communauté confondue, contre le pouvoir de la puissance mandataire. Nous pouvons encore le faire. Et ceci, on le retrouve dans ces discussions, dans ces dialogues discrets, mais je vous assure, ils sont bien difficiles et ils sont insuffisants. Quelle est la formule politique aujourd'hui recherchée ? Nous avons une revendication, bien sûr, de sécurité, d'égalité dans la citoyenneté de la part de tous. Mais nous avons aussi une revendication, une aspiration à l'autodétermination des Kurdes en Syrie. Et cette aspiration, il est très difficile de ne pas la prendre en compte. Donc, pour toute une série de raisons, y compris le fait que ce pouvoir a été extrêmement centralisé, extrêmement autoritaire, contrôlant à partir de Damas tout, l'économie, la sécurité, l'administration, la société. La recherche aujourd'hui d'un système, d'une formule de décentralisation paraît essentielle pour amener les Syriens à se mettre d'accord. Et dans ce modèle de décentralisation, cela ouvrirait la possibilité d'aménager une forme d'autonomie pour les régions qui sont peuplées par beaucoup de Kurdes, et je dis beaucoup de Kurdes parce qu'il n'y a pas de régions qui sont homogènement kurdes en Syrie, à la différence de l'Irak. Donc, une des régions autonomes qui s'appliquerait à l'ensemble du pays. Faut-il une fédération ? On s'en méfie pour l'instant, car si l'on parle de fédération, on se retrouve très vite devant le risque d'une partition, puisque le pays est aujourd'hui de fait partagé. Donc, comment va-t-on vers une décentralisation réussie et en toute sécurité, sans que le pays ne s'effondre ? Voilà, si vous voulez, où la situation se trouve aujourd'hui. Les Syriens ont quelques cartes à jouer, se parler entre eux, rechercher cette réconciliation nationale, mais il faut savoir que, autant les opposants qui tendent la main à la communauté alaouite, que les alaouites qui s'opposent ou qui critiquent le régime, ce sont ceux-là qui sont les plus menacés, les plus inquiétants pour le pouvoir de Assad. Et on le voit dans la manière, dans les arrestations, la liquidation, les disparitions d'opposants, à la fois du côté de l'opposition, mais aussi du côté de la communauté alaouite. Nous ne savons pas tout sur les geôles syriennes, loin de là, mais nous savons qu'il y a aussi des geôles qui abritent ou qui ont abrité, avant leur mort, des opposants du camp du régime lui-même. Je vais peut-être m'arrêter là, sur une note bien morbide, mais peut-être pourra-t-on susciter quelques espoirs à nouveau dans la discussion. Merci.
Merci, Basma, pour ce très brillant exposé, tout à fait sombre, par ailleurs, et tout à fait inquiétant pour l'avenir. Je ne vais pas reprendre, évidemment, ton exposé, d'autant plus que tu es bien plus compétente que moi. Sur la protection des civils, quand on discute avec les militaires, ils disent c'est un terme qui n'a pas de sens pour les militaires, je veux dire. C'est-à-dire, on détruit l'un des camps où on ne protège pas les civils. On est coincé tout simplement parce que protection des civils, ce n'est pas l'interposition. Les mécanismes de l'ONU, depuis qu'ils ont créé les casques bleus lors de la crise de Suez en 1956, ce sont des mécanismes d'interposition. Mais pour qu'il y ait interposition, il faut qu'il y ait accord des deux parties. C'est le cas, par exemple, des casques bleus à Chypre entre les Turcs et les Grecs. C'est le cas assez grossièrement de la finule au Liban Sud. Une protection des populations, ce n'est pas une interposition, puisque par définition, l'un des camps veut détruire l'autre. Et donc, ça impose que c'est une intervention militaire complète. C'est pour ça que ça ne peut pas être des casques bleus, mais des forces régulières. Et donc, par conséquent, ça devient un élément dans le combat lui-même, c'est-à-dire la liquidation de l'un des camps. Parce que sinon, la chose n'a pas de sens. Enfin, ça, c'est en tout cas la vision qu'un certain nombre de militaires m'ont expliqué et l'ambiguïté justement du terme, puisque les Russes ont dit, mais on croyait que c'était de l'interposition en fait. Et en fait, ça ne pouvait pas être le cas. Alors, on pourrait reprendre évidemment toute cette affaire syrienne selon les différentes dimensions temporel, la question du changement de régime, ah oui, il est évident qu'on ne peut pas faire confiance à Bachar el-Assad, on le savait déjà avant 2011, de toute façon, c'est-à-dire même si vous passez un accord de paix avec lui, il vous donnera un coup de poignard dans le dos, dans la foulée. Il n'est absolument pas crédible de ce point de vue. Alors, ce que l'on a vu, c'est la convergence de deux choses. Bon, vous avez l'habitude maintenant, dans le cours général, j'ai essayé d'expliquer les jeux des ingérences et des interpositions qui fait que depuis deux siècles et demi, cette région du monde répercute en son sein les luttes internationales, et les luttes internationales répercutent le jeu des conflits locaux au Proche-Orient. Et donc, pour reprendre une expression que l'on a eue dans la guerre du Liban, qui est en quelque sorte aussi un laboratoire, au départ, on a une guerre pour soi, c'est-à-dire pour la liberté, pour la défense de sa communauté, pour un projet politique dans le pays. Et progressivement, la guerre pour soi devient une guerre pour les autres. C'est-à-dire qu'on se trouve dépossédé de sa guerre et de ses enjeux, parce qu'on on dépend pour le financement, pour les axes politiques, etc. À la fin, la guerre du Liban répercutait plus le conflit irako-syrien, irako-syrien, bassiste, inter-bassiste, que les enjeux libanais lui-même. C'est ça le sens de la guerre pour les autres. Et le mécanisme qui fait qu'on arrive à la guerre pour les autres, ce sont les milices. Les milices, elles n'apparaissent pas le premier jour, elles émergent progressivement de la guerre. Et elles peuvent aller de la totale crapulerie jusqu'à des forces d'autodéfense d'une communauté, que ce soit une ville, un village, une communauté ethnique ou une communauté religieuse. Et le régime de Bachar joue à fond sur la milice, tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens de financer ses troupes. Donc il constitue des milices qui vivent sur le terrain au détriment des populations parce qu'il ne peut pas les financer, il n'a pas de solde à donner à ces miliciens. Ce qui fait que si on n'avait fait, enfin, s'il n'y avait pas eu les interventions iraniennes et russes, finalement, on aurait eu un espace fragmenté de conflits miliciens dispersés sur l'ensemble des territoires, avec le même phénomène que l'on a eu dans la guerre du Liban, c'est-à-dire à la fin, enfin en tout cas, à un certain moment du processus, il y a des milices qui deviennent plus importantes que les autres et qui constituent un territoire. Un vrai territoire et quasiment un proto-État. C'est dans la guerre du Liban, c'était le raid du chrétien avec les forces libanaises, l'espèce d'émirat de la montagne que Jumblatt avait constitué dans le Chouf, etc. Et dans la guerre de Syrie, ben, on a les Kurdes d'un côté et Daesh de l'autre, qui les deux ont constitué ces formes pré-étatiques ou proto-étatiques ou semi-étatiques, mais toujours à base milicienne, mais qui constituent paradoxalement des territoires de paix à l'intérieur d'une zone de conflit. Enfin, en tout cas, pour les gens qui sont soumis, même si, évidemment, Daesh jouait beaucoup plus sur la terreur qu'autre chose. Alors, évidemment, la guerre pour les autres, ben, ça fait que, selon la logique infernale, tous les conflits de la région se répercutent sur la scène locale, et en particulier le conflit entre l'Iran, les pays du Golfe et les États-Unis. Et à la limite, l'État islamique n'a fait que geler le conflit, au sens il fallait s'en débarrasser pour qu'on revienne à la base, qui est ce conflit, d'où les difficultés, comme tu les as énoncées, de pouvoir s'en sortir. D'abord parce qu'il y a une absence de fiabilité totale du régime de Bachar, mais l'homme est tellement pervers qu'il n'a pas permis l'émergence au sein de son propre camp d'une formule de remplacement, en quelque sorte. Donc les gens sont condamnés à l'avoir, mais tant qu'il est là, évidemment, il ne peut pas avoir d'unité syrienne, puisqu'il passe son temps à la diviser. Et dans quelle mesure la reconquête du territoire est une vraie reconquête du territoire est un autre problème. La reconquête du territoire, elle tient quand ce sont les Russes qui encadrent des policiers qu'ils ont levés sur le terrain. Mais il arrive à un certain moment où les Russes se retirent, comme actuellement en Syrie du Sud, et c'est le régime qui arrive avec sa répression, avec ses rafles de jeunes gens pour aller dans l'armée, et ainsi de suite. C'est-à-dire, la paix russe ne dure qu'un certain temps avant que le régime n'intervienne. Donc, évidemment, on ne peut pas faire des scénarios, évidemment, pour l'avenir. On voudrait tous qu'il fasse la paix, qu'il y ait une solution politique. Ce qui le pousse à l'international, c'est la présence des millions de réfugiés à l'extérieur qui sont une charge pour un certain nombre de pays, des charges directes ou indirectes, charges directes pour les voisins, la Turquie, le Liban, la Syrie, indirectes pour les autres, parce que, par exemple, les Européens qui financent la gestion des réfugiés sur le terrain, parce qu'ils ne veulent pas les avoir en Europe même. Et on sent que nous sommes nous-mêmes victimes du conflit syrien à cause des réfugiés qui ont ébranlé la fabrique sociale des sociétés européennes. Je ne vais pas dire qu'ils l'ont fait volontairement, mais dans le réel, c'est comme ça que cela s'est produit. Je crois que la reconquête de Bachar, elle est largement factice, parce qu'il ne contrôle pas le réel sur le terrain. Alors, les Russes et les Iraniens, ils essayent de faire croire aux Occidentaux qu'ils sont prêts à aider à la reconstruction du pays, à condition que les Occidentaux payent la reconstruction. Mais bon, il y a deux raisons pour lesquelles les Occidentaux ne voudront pas payer la reconstruction. Enfin, la même trois. D'abord, il n'y a pas d'argent en caisse. C'est quand même un point premier. Ensuite, si on donne une aide financière, une bonne partie, plus de la moitié, qui ira dans la caisse de la famille de Bachar el-Assad, ce qui n'est pas le but recherché. Et troisièmement, les Russes et les Iraniens pensent que la reconstruction sera faite par des entreprises russes et iraniennes. Donc on ne voit pas pourquoi les Occidentaux financeraient cette reconstruction, mais en même temps on leur dit si vous ne la financez pas, vous aurez les réfugiés. et d'où cette dimension de la question des réfugiés. Alors, soit donc la poursuite du scénario actuel, soit ce qui est une éventualité qu'on ne peut pas négliger mais qu'on ne peut pas prévoir, qui est une nouvelle guerre généralisée, qui sera une autre étape du conflit, c'est-à-dire un heurt direct entre les Iraniens, les Israéliens, les Américains, dans l'espace syrien, plutôt que cette fois que ce soit dans l'espace libanais, ce serait plutôt l'espace syrien. C'est une éventualité qu'on ne peut pas négliger, mais évidemment, je ne peux pas vous dire, ça va se produire dans 3 jours, dans 3 mois, ou ainsi de suite. Voilà, si tu as des réflexions, mes réflexions.
Merci, merci Henri. Je pense peut-être dire 2 mots, effectivement, du rôle des pays occidentaux et notamment de l'Europe. Dans un conflit armé, l'Europe n'est jamais très équipée pour jouer un rôle. Elle n'a pas d'armée, il y a des armées nationales, mais le choix n'a pas été fait, comme on l'a dit, d'une intervention. Et un seul pays, étant donné la présence tout de même des Russes sur le terrain, de l'enjeu que présentent Israël et l'Iran, donc des enjeux stratégiques importants, internationaux et régionaux, qui font qu'un pays européen tout seul ne serait pas intervenu. Pas davantage d'ailleurs 2, si c'était la France et la Grande-Bretagne. En revanche, ces 2 pays attendaient que les États-Unis prennent une décision, et là, il aurait été possible d'intervenir, notamment lorsqu'il y a eu usage des armes chimiques en 2013, en août 2013. Là, la France était prête à partir, à faire partir ces appareils directement pour des bombardements punitifs, des opérations punitives contre le régime. Or, les États-Unis ont décidé à la dernière minute de ne pas y aller. Les Anglais aussi, d'ailleurs, ont voté contre. Voilà donc une impuissance devant la situation sur le plan militaire. Mais aujourd'hui, lorsque le conflit est en train de se terminer, c'est-à-dire que la donne militaire est à peu près réglée, elle a donné l'avantage à qui on sait. Qu'advient-il après ? Autrement dit, la guerre militaire a été gagnée, si l'on veut, provisoirement. Est-ce que sur cette guerre militaire, il est possible de construire politiquement ? Or, pour construire politiquement, il faut reconstruire matériellement, physiquement. Pour le faire, il faut, pour que les réfugiés puissent retourner, ça n'est pas une maison qu'ils attendent, mais c'est d'abord leur sécurité. Seront-ils arrêtés s'ils rentrent ? Les jeunes seront-ils embarqués dans l'armée de force pour aller combattre leurs propres concitoyens ? Voilà des considérations majeures qui font que les réfugiés ne retournent pas aujourd'hui, même si les bombardements aériens ont cessé. Donc il y a une question qui est liée à la sécurité qui domine tout, à vrai dire, et qui, depuis le départ, dominait les revendications. En revanche, ce dont il faut se rendre compte aujourd'hui, c'est que les pays qui tiennent les cordons de la bourse pour financer cette reconstruction, ce sont essentiellement les pays européens et les pays arabes du Golfe. La richesse, les moyens, l'Union européenne en tant que telle, autrement dit, c'est le budget national français, on ne va pas le solliciter aujourd'hui, étant donné les efforts qui sont faits pour calmer le pays. En revanche, il y a des budgets consacrés à l'Union européenne qui sont là, qui attendent d'être alloués à la reconstruction. Ils sont présents et ils sont importants. Ce sont en tout cas les pays qui ont le plus de moyens. Donc ce sont les acteurs clés de l'après-guerre. Et c'est là que l'Europe ne voit pas suffisamment à quel point elle peut être déterminante dans l'avenir du pays et combien elle peut faire jouer cet enjeu, cette carte-là. Autrement dit, lorsque les Russes font pression, vont voir Mme Merkel en disant « Renvoyez les réfugiés, le pays est sûr », Mme Merkel ne se laisse pas impressionner. Elle répond en disant « Non, la situation n'est pas sûre, Il n'y a pas de solution politique. Nous en sommes encore à la logique de la force et de la répression. Nous ne mettrons pas un centime dans le pays et nous, pour l'instant, les réfugiés vont rester chez nous. Alors, bien sûr, Mme Merkel aurait préféré que les réfugiés commencent à rentrer. Ça aurait changé peut-être le cours de sa carrière politique. Mais elle dit aussi que nous, aujourd'hui, nous sommes déterminants, nous, les Européens. Les Russes n'ont pas les moyens de financer. Alors, il faut que les Européens et les pays du Golfe, bien sûr, pose des conditions. Y aura-t-il un arrêt de toutes les arrestations ? Y a-t-il libération des prisonniers ? 200 000 prisonniers disparus, on ne sait pas, peut-être plus que cela. Y a-t-il des garanties qu'on peut rentrer chez soi sans être menacé ? Est-ce qu'on peut avoir ce type de garantie pour que les réfugiés commencent à rentrer ? Est-ce qu'on peut avoir un début de partage du pouvoir, de transformation du paysage politique, etc. Donc il y a des cartes que tiennent aujourd'hui les Européens entre leurs mains qui sont extrêmement importantes, mais pour cela il faut développer une vraie stratégie. Cette stratégie, malheureusement, elle n'existe pas encore tout à fait. Le discours, c'est « nous ne financerons pas la reconstruction sans transition politique ». Ce n'est pas suffisant, il faut en dire davantage. Il faut préciser ce que cela signifie. Voilà, je crois, un des éléments importants. Je voulais revenir un instant sur la question de la protection des populations et l'intervention et la protection des civils. C'est une norme à la fois très honorable, très noble et très difficile à appliquer. Elle n'est pas impossible, elle est difficile. En réalité, elle a été appliquée parce qu'en réalité, il faut la prendre comme une intervention d'abord de nature aérienne et pas tellement, pas forcément nécessitant des forces d'interposition. C'est une protection contre les bombardements aériens, pas contre les opérations militaires de terre, terrestres. Et la ligne est très floue entre la protection humanitaire et l'intervention pour changer la donne politique. On peut prendre comme exemple la Bosnie. La Bosnie a été une intervention humanitaire à proprement parler. D'ailleurs, la norme qui a été entérinée, admise par le Conseil de sécurité en 2005, c'est justement qu'on avait appliqué, on avait eu recours à une intervention humanitaire en Bosnie et non à un changement de régime. Une intervention humanitaire, un couloir, enfin un pont aérien plutôt, non pas un couloir, il y a eu des couloirs humanitaires, mais un pont aérien et la possibilité donc d'arrêter, d'interrompre les opérations contre les populations civiles. Ça n'a pas complètement protégé les populations, mais ça a joué le rôle de déclencheur quand même d'un processus politique. Les Russes ont compris la détermination occidentale, ils ont cessé de soutenir Milosevic, ils ont compris qu'il fallait aller à une solution politique, et donc l'intervention humanitaire a eu ce rôle-là. Mais elle n'est pas facile, elle est un élément d'un dispositif à la fois stratégique militaire et politique diplomatique. Et si l'un n'est pas accompagné de l'autre, alors on va vers le dérapage qui est le changement de régime. On roule jusqu'à la capitale et on déloge la tête du pouvoir. Voilà ce qui s'est produit en Libye et ce qui a discrédité la norme aujourd'hui. Malheureusement, il est très difficile encore de parler de protection humanitaire. Et ce sont d'une zone d'exclusion aérienne comme on l'avait fait parce que il y a eu ce dérapage.